Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 3 mars 2022 et bien évidemment le sujet du jour c'est encore et encore la guerre en Ukraine, mais on a quand même vécu un rebond global, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis. Alors les sanctions continuent de tomber de toute manière, mais on parle de négociations, de cessez-le-feu, de parties qui seraient en mesure d'avoir envie de commencer à négocier, donc c'est plutôt encourageant, on va se raccrocher à ce qu'on peut pour l'instant. Mais comme je le disais, les sanctions continuent de tomber. Les Japonais vont arrêter de livrer des voitures en Russie. Nike va arrêter de fabriquer des Nike, d'exporter des Nike en Russie. Donc du coup, eh bien, ça continue à poser pas mal de problèmes. Les Américains veulent geler les assets de tous les oligarches qu'on peut trouver partout dans le monde, puis les mettre à la soupe populaire. Abramovich veut vendre le Chelsea pour utiliser les prospects, enfin les résultats de la vente, pour les donner aux Ukrainiens, et puis ça continue dans cette direction. Donc en fait, ce qu'on peut dire globalement de tout ça, c'est que si Poutine a vraiment des envies de revenir dans la Russie, dans l'URSS des années 80, eh bien il est en train d'y arriver gentiment, puisque bientôt il y aura les mêmes conditions de vie, c'est-à-dire de nouveau les queues de 3 heures à l'entrée des boucheries, et puis vous trouverez plus rien de potable à vous mettre, peut-être qu'il vaut même recommencer la production des Trabants, et même pas électriques. Mais du côté marché, du côté purement marché, ce qui va bien aujourd'hui, ce qui va mieux, c'est effectivement qu'il y a un léger retour de la confiance. Et puis hier, on a été boosté par Monsieur Powell, qui a donc parlé devant les politiciens américains pour leur donner sa vision de ce qui se passait aujourd'hui. Alors évidemment, le gars, il est extrêmement prudent par rapport à ce qui se passe au niveau de l'Ukraine. Sans blague, on le serait à moins. De toute manière, il est obligé de tenir compte de ce qui se passe. Il a parlé de la prochaine hausse des taux que la Fed va annoncer le 15 et le 16 mars. On l'attend de manière assez intense, bien évidemment, c'est ce qui nous préoccupait le plus. Clairement, dans son discours, il va monter les taux de 0,25 et pas de 0,50. Alors, pas mal de gens s'y attendaient à une hausse de 0,50, mais depuis quelque temps, effectivement, avec ce qui se passe en Ukraine, eh bien, les attentes de voir une hausse aussi violente étaient révisées à la baisse, et effectivement, par rapport au discours de Monsieur Powell, on peut s'attendre effectivement à une hausse de seulement 0,25% d'ici la mi-mars. Donc c'est une relativement bonne nouvelle pour les marchés. Du coup, les Fed Funds qui parient un petit peu sur ces hausses des taux price aujourd'hui 0% de chance de voir une hausse supérieure à 0,25. Donc ça soulage un petit peu le marché. Et on revient sur le côté que dans ces conditions-là, la Fed est plutôt de notre côté, donc c'est encourageant. Alors forcément, de l'autre côté, vous avez Monsieur Bollard, le patron de la Fed de Saint-Louis, ou je sais plus où exactement, peu importe, mais c'est le plus haut quiche de tous les membres de la Fed. Alors lui, ça fait des semaines qu'il hurle à la mort, comme quoi il faut monter les taux deux fois de 0,5% en mars, puis en mai. Alors pour l'instant, il continue à hurler en disant que c'est un scandale parce que lui, il pense qu'il faut agir fort et violemment pour freiner cette inflation. Alors pendant que les grands de ce monde, les patrons de banques centrales s'écharpent pour savoir s'il faut monter un peu les taux ou beaucoup les taux, à côté de ça, on a les experts qui ont sorti leur spreadsheet Excel et qui réfléchissent à ce qu'il faut penser, à ce qu'il faut imaginer du futur. Alors là, il y a eu quelques experts qui ont parlé ces temps. Ils sont très inquiets, surtout par l'aspect inflationniste, bien sûr, et la hausse des matières premières qui est liée finalement à cette guerre en Ukraine. Alors du coup, forcément, on commence à se stresser un petit peu, et c'est clair que quand on regarde ne serait-ce que deux choses, le pétrole et le blé. Alors quand vous regardez le pétrole, on le sait tous, il continue d'exploser, donc c'est juste impressionnant. Et puis le blé, accessoirement, là on en parle un petit peu moins, mais faut pas oublier que la Russie et l'Ukraine sont des gros producteurs céréaliers, et donc du coup on s'inquiète aussi du prix du blé, de ce que ça peut avoir comme conséquence. C'est quand même deux trucs qu'on utilise un tout petit peu dans notre vie de tous les jours. Donc quand vous voyez le graphique du blé, ça fait aussi un tout petit peu peur, et c'est clair qu'à ce moment-là, on peut pas négliger le fait que l'inflation, qui est déjà méga forte aux États-Unis, elle va pas forcément ralentir avec ces choses-là qui sont en train d'exploser. Et je rappelle quand même qu'on a eu une inflation le dernier mois qui était au plus haut depuis plus de 40 ans, et là, on a entre deux, on a le pétrole qui a pris quasiment 20% et le blé qui a pris encore, 20% ou 25% également. Donc ça, forcément, à un moment donné, ça devrait se répliquer quelque part. Et c'est pas forcément une très bonne nouvelle. On verra demain avec les chiffres économiques des non-farm payrolls, enfin les chiffres de l'emploi, voir un petit peu ce que ça donne. Quand on regarde les chiffres qui sont sortis hier, c'est plutôt encourageant. Mais encore une fois, qui dit encourageant dit attention à la thématique de l'inflation. Donc on doit soupeser un peu ces deux choses entre le fait que M. Powell a clairement expliqué qu'il allait monter les taux que de 0,25 et ces chiffres qui continuent à monter sur le fait que l'inflation pour l'instant n'est pas vraiment en train de repartir à la baisse. On se pose beaucoup de questions et c'est clair qu'on va avoir beaucoup de réponses ces prochains temps, beaucoup de réponses avec le non-farm payrolls, avec les chiffres du CPI la semaine prochaine, avec la réunion de la Fed le 15 et le 16 mars. Et il y a un truc qu'il fallait que j'aborde quand même, parce que ça c'est un peu mon ego qui prend le dessus. Je sais pas combien de fois je vous ai dit ces derniers temps que quand on serait à 100$ sur le baril, on va commencer à parler du fait que, oulala, c'est inflationniste, mais pire que ça, ça peut même entraîner une récession. Eh bien, regardez ce que le Barron's a affiché comme article ce matin. Si on tient compte de tout ça, il y a même un type qui a dit à l'intérieur de l'article que lorsque l'on a 100% de hausse sur le baril, sur un an, cela déclenche une récession. Et ça s'est confirmé en 90, en 2000 et en 2008. Alors là, pour ce qui nous concerne, en ce moment, sur le baril, on a une hausse de 83% depuis le 3 mars 2021, donc on n'est pas encore à 100%, mais on est au-dessus des 100$. Donc je sais pas ce qu'il faut interpréter comme signe, mais c'est pas forcément une bonne nouvelle. Mais surtout, ce que je voulais dire dans tout ça, c'est que je l'avais dit. Au moins, il y a une fois où je pourrais dire « je l'avais dit ». Et puis, comme d'habitude, lorsque tout va mal, eh bien, on a un type qui revient, qui réapparaît à chaque fois pour dire « ouh là là, la fin du monde est proche et on va tous mourir ». Eh bien, c'est bien sûr Monsieur Nouriel Roubini. Monsieur Roubini a donc écrit un article très fouillé qui circule actuellement sur le net pour expliquer qu'effectivement, avec ce qui nous arrive, ça allait être très compliqué, que l'inflation allait tous nous faire du mal, que la guerre allait continuer, que ça allait poser d'énormes problèmes au niveau de la confiance du consommateur, etc. etc. Bref, que c'était très très compliqué et qui probablement tout ça va nous mener ensuite à une guerre froide numéro 2 et puis ensuite derrière tout ça, eh ben, on va rentrer dans une période de stagflation. Alors la stagflation, c'est la période où finalement l'économie ne fait plus rien mais que l'inflation continue à monter. C'est en gros ce qui peut nous arriver de pire en économie ou pas loin. Et puis bah, du coup, lui, il pense que la fin est proche, encore une fois, qu'on va corriger massivement. Voilà, bon, c'est un grand classique de Monsieur Roubini. Il faut pas oublier non plus que Monsieur Roubini a été juste une fois dans sa vie, c'était pendant la crise des subprimes. Et depuis 2009, donc c'est-à-dire depuis 13 ans aujourd'hui, il est à côté de la plaque. Mais il revient tous les 3 mois pour nous dire qu'il va se passer un truc horrible en fonction de la crise du moment, hein, que ce soit le Covid, que ce soit n'importe quoi d'autre, il vient nous dire que ça va mal se passer. C'est à peu près trimestriel, entre deux, il est la plupart du temps en boîte de nuit, mais autrement, voilà, à savoir quand même que Monsieur Roubini a parlé, alors des fois ça donne un petit peu d'angoisse sur le marché, il a souvent tort, mais enfin, c'est quand même un économiste. Je voudrais encore vous montrer 4 graphiques ce matin, assez rapidement, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, mais ce qu'il faut quand même retenir, c'est que techniquement, on n'est pas dans une période vraiment très euphorisante. Bah, le premier, c'est évidemment le S&P 500. Quand vous voyez le graphique du S&P 500, eh bien, on voit clairement que il y a une tendance qui est en train de s'affirmer. Alors, pour l'instant, on est en train de parler de support, de points d'inflexion pour commencer à racheter, de à quel moment il faut racheter sur faiblesse. On comprend bien, ça fait forcément des années et des années qu'on est dans un bull market, donc on a appris à racheter sur faiblesse. Mais globalement, là, ça fait quand même une tendance baissière qui est en train de se dessiner et de s'affirmer. Et plus la tendance est forte, plus ça devient important à suivre. On dit toujours ne jamais aller contre la tendance. Eh bien, là, on a gentiment une tendance qui est en train de se dessiner. Alors, soit ces derniers jours, on a vécu quand même un joli rebond et une jolie récupération de performance, que ce soit sur le Nasdaq, qu'on voit aussi maintenant, ou sur le S&P 500. Mais on voit que ces deux graphiques américains sont dans une tendance baissière et que tant qu'on n'a pas réussi à casser cette tendance à la hausse, qui n'est pas encore le cas, d'ailleurs on arrive déjà pratiquement sur des zones de résistance, eh bien on va avoir quand même de la peine à trouver ça hyper euphorique, sachant qu'on a bien évidemment toujours cette épée de Damoclès avec la guerre en Ukraine qui ne va pas nous faciliter le travail. Alors c'est clair que si demain on a un cessez-le-feu, on a des négociations de paix qui commencent et les Russes qui se retirent, forcément qu'on va probablement casser cette tendance baissière à la hausse, mais comme c'est parti, on n'a pas non plus l'impression que Monsieur Poutine est prêt à faire demi-tour et puis à revenir à l'état précédent la guerre et puis en plus financer la reconstruction des immeubles qui ont déjà été détruits. en Ukraine. Donc du coup, il faut quand même faire très attention à cette tendance. Et puis j'aimerais rajouter encore deux graphiques, le DAX et le DAX. Vous voyez clairement que là, la tendance, elle est déjà affirmée. Mais en plus, on a cassé cette tendance. On est dans une phase d'accélération de tendance baissière. Et ça, c'est pas bon. Il faudra aussi qu'à un moment, on réintègre au moins la tendance baissière pour avoir une vitesse de baisse un petit peu moins rapide et pour espérer ensuite repartir un jour à la hausse. Mais pour l'instant, il faut faire attention parce que c'est vrai qu'on est tous en train d'espérer à quel moment on va rebondir sur cette correction. Mais pour l'instant, la tendance s'affirme, ça se voit sur le DAX, mais également sur le CAC, qui est aussi dans une tendance assez moche. En plus, bon, la seule différence avec le DAX, c'est que le CAC n'a pas encore déclenché sa dead cross, en fait, cet croisement des moyennes mobiles 200 et 50 jours. Mais franchement, c'est pas super, super euphorisant. Alors, c'est clair que c'est pire en Europe qu'aux États-Unis pour une question de distance géographique, forcément. Mais les tendances sont en train de s'affirmer et il faut pas trop le négliger. Alors, vous savez que je suis plutôt tendanciellement bullish, on veut pas dire le contraire. Donc, je suis plutôt prêt à trouver les points d'inflexion pour racheter, pour jouer le rebond. Mais là, franchement, ce qui est en train de se passer, faut quand même pas se cacher les yeux et se dire, non, non, tout va bien, tout va bien. Et les tendances sont quand même en train de se dessiner. Alors, ça veut pas dire que ça va durer 10 ans. On sait que les tendances baissières durent 12, 18, 24 mois, des fois plus longtemps. Mais je veux dire, c'est des fois relativement court. Mais là, on rentre dans une période un petit peu spécifique. Donc, il faut quand même faire un tout petit peu attention. Pas se laisser embarquer en se disant, oui, c'est pas encore un bear market, c'est pas encore un bear market, mais quand même les tendances sont en train de s'affirmer, donc méfiance quand même de ce côté-là, prudence est donc meilleure de sûreté. Juste quelques points sur quelques titres individuels, d'abord on citera Rivian qui s'est pris 13% dans la figure hier soir parce qu'ils ont augmenté les prix de 20%, à cause de l'inflation. On en a parlé déjà dans la vidéo d'hier, donc ça c'est un grand classique, mais voilà, donc ça continue. Rivian, c'est pas extraordinaire, hein, quand on voit la performance du titre par rapport à l'époque, à l'ouverture, à l'émission où ça a juste cartonné. Et là, on voit que c'est pas aussi simple que ça, même si l'engouement sur les voitures électriques est extrêmement fort. D'ailleurs, on l'a vu hier encore sur Ford, puisque Ford a bondi de 9% durant la séance. Pourquoi ? Eh bien, parce que Ford a annoncé qu'ils allaient faire le spin-off de leur division électrique. Donc, dorénavant, il faudra choisir entre ça ou bien entre ça. Donc, autant vous dire que si c'est ça, je préfère la version old school que la version électrique. Mais en moins, ça marche plutôt bien et c'est ce que les gens regardent aujourd'hui. On veut voir toutes ces marques qui passent à l'électrique. Donc, bonne nouvelle chez Ford, mauvaise nouvelle chez Rivian qui ont, je le rappelle, augmenté les prix de 20% et pas uniquement pour ceux qui vont acheter des voitures, mais pour ceux qui ont déjà commandé leur voiture. On parle aussi de Nordstrom. Alors, Nordstrom, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un retailer américain qui vend des fringues et des chaussures, en gros, un espèce de gap aux États-Unis. Ils ont annoncé hier une révision de leur guidance à la hausse, mais assez violemment, le titre a pris 40%. Alors, c'est spectaculaire. Faut pas oublier non plus que sur les 36 derniers mois, Nordstrom a perdu 70% de sa valeur. Donc, c'est juste une question de rééquilibrage. Donc, le titre a explosé une séance 40% de hausse. On peut imaginer qu'il y avait 2-3 shorts qui se sont couverts quand même dans l'histoire. Mais néanmoins, le titre rebondit de manière assez massive. Et ce matin, les premiers articles qu'on voit, c'est les gens qui disent « Oui, mais peut-être que c'est pas sûr qu'ils arrivent à obtenir les objectifs qui se sont fixés. » Donc voilà, on a eu une belle journée à faire à suivre au niveau de Nordstrom. Et puis, on terminera au niveau des titres individuels avec Snowflake. Alors, Snowflake, souvenez-vous, c'est une des IPO stars d'il y a quelques dizaines ou douzaines de mois en arrière, où tout le monde se disait « Ça, c'est un coup sûr, c'est une superbe boîte. » Les gens, ils étaient prêts à vendre leur grand-mère, leurs enfants, tout ce qu'ils avaient sous la main pour avoir de la Snowflake à souscription, c'était parti pour exploser, c'était génial, c'était fabuleux, c'est la révolution. Le titre a effectivement explosé. Là, depuis quelques temps, tous ces titres-là, un peu dans le cloud, ça a été beaucoup moins populaire et ça fait que de se péter la figure. Hier soir, ils ont fait une révision de leur guidance à la baisse. Le marché a adoré. After close, le titre perdait 30%. Donc, comme vous le voyez sur le graphique à l'instant, eh bien, Snowflake devrait ouvrir aujourd'hui autour des 200$. Donc, ça fait de nouveau 60$ dans la tête et là, au plus bas depuis un bon moment. Donc, on voit encore que malgré que la saison des résultats est quand même bien derrière nous, il y a encore quelques publications qui peut faire très très mal. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Donc il faut retenir que Powell ne va monter les taux que de 0,25%. Ça c'est la première nouvelle de la journée et la plus importante qu'il faut retenir. Donc on a quand même une forme de soutien de la Fed. Ça a l'air de se calmer en Ukraine. Alors on va pas sauter de joie non plus, bien entendu, mais il semblerait qu'ils sont prêts à négocier et que ça pourrait peut-être déboucher sur quelque chose de positif, on espère. De l'autre côté, eh bien, on continue à avoir un marché qui a l'air d'être dans une phase de rebond, mais comme je le disais avant sur les graphiques, il faudra ressortir de ces tendances descendantes. D'ici là, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote Suisse. Moi, je vous retrouve comme d'habitude demain à la même heure et au même endroit. Je me réjouis déjà, passez une très bonne journée et à demain. Bye bye.